Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la pénitence est à la fois une vertu et un sacrement. Saint Thomas commence par le sacrement, car c'est lui qui consacre la vertu, le sacrement. Le Concile de Trente commence par la vertu, car, écrit-il, si l'on ne connaît d'abord la vertu de pénitence, il est impossible de bien comprendre l'efficacité du sacrement. Nous avons vu la dernière fois, dans le sermon sur la justification, quelle était la réponse de l'homme à l'action de Dieu dans l'âme. Et nous avons déjà parlé de collaboration. Ceci est très important, et il faut approfondir, parce qu'il ne s'agit pas seulement de collaboration, vous voyez. Il s'agit d'une élévation de nos actes personnels, humains, qui sont élevés, consacrés. Il y a une grande intimité qui est créée ou recréée entre Dieu et l'homme par le sacrement de pénitence. Saint Thomas fait une comparaison avec les médicaments, à savoir les médicaments extérieurs et ceux qui stimulent les défenses de l'organisme. La matière n'est alors pas la même. Dans le premier cas, elle est extérieure. On vous applique un onguent, on vous donne un produit chimique. Dans le deuxième cas, la matière, c'est le sang même du malade qui va être réchauffé par le remède. C'est ce qui se passe avec un cataplasme. Le cataplasme ne vous ajoute rien, mais il fait circuler le sang, il le réchauffe et il vous guérit en élevant, en réélevant la vie et les capacités du malade. Et par conséquent, la matière du sacrement de pénitence, cela va être les actes du pénitent, à savoir la vertu. La vertu qui commence le processus, nous l'avons vu la dernière fois, et qui en même temps est l'achèvement du processus. Le sacrement de pénitence est avec le mariage les deux seuls sacrements dans lesquels les actes de l'homme sont la matière. Je vous ai dit que le sacrement de mariage, c'était le mariage élevé à la dignité de sacrement. Eh bien, le sacrement de pénitence, c'est la vertu du pécheur élevée à la dignité de l'amitié divine. Vous vous rappelez, mes bien chers frères, que saint Thomas tient particulièrement à la distinction en trois parties, le signe seul d'une part, le signe réalité, et en troisièmement, la réalité seule. Cette distinction est très importante pour nous faciliter la compréhension du sacrement, et particulièrement dans le sacrement de pénitence. Elle nous aide à comprendre. Le signe seul, ce sont les actes accomplis extérieurement. Vous vous frappez la poitrine, vous récitez le Confiteor, vous vous mettez à genoux au confessionnal, vous accusez vos péchés, vous manifestez votre repentir. Tout cela, ce sont des actes extérieurs. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, s'il n'y avait pas les paroles du prêtre au nom du Christ, ces actes-là demeureraient stériles. Et nous dirions, je regrette, mais c'est trop tard. J'ai eu tort, mais je ne peux plus reconstruire ce que j'ai démoli. Ce que j'ai démoli venait de Dieu, mais c'est moi qui l'ai démoli, et donc seul Dieu peut le reconstruire. Et si Dieu n'agissait pas, ce serait le désespoir. En tout cas, nous ne pourrions plus rien faire. Grâce aux paroles du prêtre, de la part de Jésus-Christ, ces actes extérieurs vont être consacrés, sanctifiés et vont donner la pénitence intérieure. La pénitence intérieure, c'est-à-dire cette fois-ci, non pas un regret stérile, mais le regret d'un ami qui a perdu son ami et qui sait que son ami l'attend. Le pécheur a offensé Dieu, il se rend compte de la gravité de ce qu'il a fait, et en même temps, cette satisfaction qu'il apporte à Dieu, qui lui ne l'a jamais abandonné, qui est un ami qui a toujours été fidèle, cette satisfaction, par la volonté de Dieu, par la bonté de Dieu, appelle la grâce qui va lui être rendue et qui, elle, est la réalité du sacrement. Je reprends l'explication que je vous avais donnée avec l'Eucharistie pour que vous compreniez bien. Les paroles du prêtre agissent sur le pain et le vin qui sont de simples signes. Et ces paroles rendent substantiellement présent le Christ incarné sous les apparences du pain et du vin. Seulement, vous savez, je vous l'ai dit suffisamment de fois, la nature humaine de Jésus-Christ n'est quand même qu'un instrument de la divinité. Elle n'est pas la divinité. Elle est très noble parce qu'elle est la nature du Fils de Dieu, mais elle est l'instrument du Fils de Dieu. Et donc cette présence de Dieu, c'est le signe qui est en même temps réalité, et quiconque s'unit à ce sacrifice eucharistique reçoit alors la grâce dans l'âme, parce que c'est cela la réalité du sacrement. Vous me ferez peut-être une objection, à savoir que la contrition parfaite, dont je vous ai déjà parlé, sur lequel j'ai écrit un article, ou plutôt j'ai reproduit le chapitre du livre de Kergoustin « Vers un ciel plus beau », la contrition parfaite, vous avez appris cela au catéchisme, remet les péchés et elle produit donc la grâce. Alors on pourrait se poser la question, il y a donc deux moyens de rentrer dans l'amitié divine. D'une part la contrition, qui va avec la vertu de pénitence, d'autre part le sacrement. Eh bien non, parce que la contrition parfaite est en réalité un sacrement de pénitence de désir. Comme la communion de désir est l'union au sacrifice eucharistique. Vous n'avez pas d'une part la communion de désir qui serait un acte d'amour de Dieu, d'autre part la communion sacramentelle qui serait l'union réelle au sacrifice eucharistique. Vous avez une union qui se fait soit sacramentellement, soit par le désir. Et donc, ce que je viens de vous expliquer avec saint Thomas, à savoir que la pénitence est à la fois un sacrement et une vertu, non seulement ne contredit pas la valeur de la contrition parfaite, mais c'est ce qui lui donne sa valeur et sa puissance. C'était la première partie du sermon. Les actes du pénitent sont élevés par les paroles du prêtre et par l'action de Dieu. Deuxième partie de ce sermon, il faut réparer, mais envers un ami. La pénitence est la vertu par laquelle le pécheur regrette ses péchés, qui sont des offenses faites à Dieu. C'est ce qui différencie la vertu chrétienne de pénitence des simples regrets humains ou d'une demande de pardon qu'un païen peut faire à un de ses amis qui l'a offensé. Donc c'est une vertu par laquelle le pécheur regrette ses péchés qui furent une offense à Dieu et il veut les réparer. Et pour qu'elle soit parfaite, Il faut que celui qui a offensé, donc l'offenseur, le pécheur, répare. Et il faut que l'offensé, Dieu, juge de la suffisance ou non de la réparation. On ne peut pas imposer à Dieu la réparation qu'on lui offre. Bien sûr, c'est un ami qui ne désire que cela, l'accepter, cette réparation. Mais les deux aspects sont importants. Les actes du pénitent manifestent le premier aspect, la réparation qu'on apporte. Les paroles du prêtre manifestent le deuxième aspect, à savoir que Dieu agrée la pénitence qui est faite par le pénitent. Il pourrait ne pas l'agréer si cette pénitence était fictive, insuffisante, si c'était une simple crainte servile. Si on se présentait devant lui en esclave et non pas en ami infidèle. On insiste beaucoup sur le premier élément, les actes du pénitent, la contrition, la satisfaction, la confession. On insiste peu sur le deuxième élément. Et pourtant, il a son importance parce que c'est lui qui met définitivement les actes du pénitent à la hauteur de l'amitié divine. La pénitence nous a été donnée par Dieu qui veut restaurer avec nous son amitié. Elle est le fruit direct de la passion qui est le plus grand acte d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, a dit notre Seigneur. Et par conséquent, il va falloir que nous accordions un grand soin, une grande attention aux actes que nous posons, parce que ce sont des actes qui doivent être agréés par l'ami. De même, il faut faire très attention aux paroles que Dieu prononce à travers les paroles du prêtre, parce que elles sont les paroles qui donnent leur valeur à nos pauvres actions humaines. Pourquoi Saint Jean Bosco ne parlait plus du confesseur qui juge au nom du Christ, mais seulement de l'ami? Est-ce que c'est contraire à ce que je viens de vous dire? Non. Saint Jean Bosco faisait le contraire des modernistes, parce que eux, ils occultent les actes du pécheur repentant. L'amour, la miséricorde. Dieu prend le pécheur tel quel et ne demande pratiquement plus rien au pénitent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les quelques églises où il reste encore des confesseurs, le pénitent est assis devant le confesseur et il discute avec lui. Alors que, selon la tradition, le pénitent est à genoux dans le confessionnal. Et donc, Saint Jean Bosco n'occultait pas du tout les actes du pénitent, mais il faisait justement prendre conscience de ce que je veux vous exposer et de ce qui me paraît tellement important, à savoir que cet ami non seulement va pardonner, mais nous donne de quoi réparer comme il faut. Et je suis persuadé que cette considération de l'amitié de Dieu qui nous donne la vertu pour pouvoir réparer à la hauteur de ce qui est exigé par lui qui est Dieu, cette considération, vous voyez, du don de Dieu est un stimulant beaucoup plus grand pour poser nos actes de contrition, d'accusation de nos péchés et de pénitence, puisque nous allons bientôt entrer dans le carême, il faut en parler, c'est un stimulant beaucoup plus puissant que de rappeler seulement la gravité du péché. D'ailleurs, saint Ignace, dans sa première semaine, même s'il parle beaucoup de la gravité du péché, parle peu de l'enfer, c'est-à-dire qu'il stimule beaucoup l'espérance en montrant Jésus-Christ dans chaque méditation, Jésus-Christ sur la croix qui attend le pécheur et qui veut le réconcilier dans son amitié. Quelques exemples manifestent ce que je viens de vous dire. Tout d'abord, les circonstances dans lesquelles le Christ a communiqué aux apôtres et donc aux prêtres le pouvoir de pardonner. Vous vous rappelez, c'était le soir de Pâques. Il apparaît miraculeusement et mystérieusement à ses apôtres au milieu du cénacle, n'ayant même pas franchi les murs, alors que toutes les portes et les fenêtres étaient closes. Les apôtres doutent beaucoup. Est-ce lui? N'est-ce pas lui? Alors notre Seigneur va se mettre à leur portée, et tout d'abord il va dire, mais si, tâtez, regardez, les fantômes n'ont pas une chair, des os comme j'en ai. Alors les apôtres tâtent, et ils se le rappelleront d'ailleurs, saint Jean le dira dans sa première épître, celui que nos yeux ont vu, que nos oreilles ont entendu, que nos mains ont palpé, le Verbe de vie, c'est lui que nous vous annonçons. Mais cela ne suffit pas, parce que le Saint-Esprit n'est pas encore venu en eux, et donc notre Seigneur leur dit, mais avez-vous quelque chose à manger? Comme si son corps ressuscité avait encore besoin de manger. Les apôtres savent faire, ils sont tout heureux, ils lui servent un rayon de miel, du vin. Lorsque notre Seigneur a fini son souper, il se lève calmement, solennellement, il souffle sur eux, « Recevez le Saint-Esprit. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Désormais, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et hélas, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il les bénit et il disparaît. Alors vous voyez, mes bien chers frères, il faudrait vraiment que toutes nos démarches de pénitence, que ce soit par nos actes de contrition ou par le sacrement de pénitence, soient véritablement la rencontre d'un ami avec son ami, d'un ami infidèle, mais qui sait que son ami, lui, est toujours resté fidèle et qu'il préfère avoir à pardonner plutôt que de perdre son ami. Et cela, je suis persuadé, d'abord vous encourage, et puis change notre vision du souverain juge au confessionnal. Certes, au jugement, il sera un juge inflexible, mais pour l'instant, il est un juge amical, plus que cela. C'est un ami qui nous juge pour nous sauver. Ce sermon n'était peut-être pas comme d'habitude. Je crains qu'il ait été plus austère. En tout cas, en réétudiant ces vérités dans saint Thomas et dans le catéchisme du Concile des Trente, j'ai vraiment beaucoup apprécié de redécouvrir ce que j'ai cherché à vous faire comprendre, cette union très intime dans l'amitié entre les actes de l'homme et la bonté de Dieu, alors que nous avons tendance à les séparer. Je crois que pour commencer ce carême, nous avons là vraiment, surtout si nous demandons à la Sainte Vierge son aide, elle nous fera découvrir non seulement les exigences de la pénitence, mais surtout la grandeur de l'amour qui nous est rendu par nos actes de pénitence. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.